Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Le pape François devient pleinement évêque de Rome. Dimanche, il a pris possession de sa cathédrale, la basilique Saint-Jean de Latran. Il a également salué la foule depuis la loggia de l'église, un geste qui n'avait pas été accompli depuis des années. Violence entre coptes et musulmans en Égypte, le calme est revenu au Caire, mais la tension reste palpable dans un pays qui peine à retrouver une certaine stabilité depuis le début de la révolution en 2011. Journée internationale des Roms, nous ferons le point avec un prêtre du diocèse de Lille sur leur situation en France, alors que les expulsions de camps se multiplient dans tout le pays. La question de l'immigration rapproche l'épiscopat américain et la Maison-Blanche. Une réforme de la loi sur l'immigration doit prochainement être adoptée par le Congrès des États-Unis. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Revenons donc tout d'abord sur la prise de possession dimanche de la cathédrale de Rome par son évêque. Le pape François s'est en effet rendu en la basilique Saint-Jean de Latran en fin d'après-midi pour y célébrer la messe et recevoir l'acte d'obéissance de la part des représentants de la communauté ecclésiale du diocèse. De nombreux prêtres, évêques et cardinaux étaient évidemment présents, sans oublier les religieux et les fidèles. Jean-Baptiste Cocagne.
C'est une foule joyeuse et nombreuse qui a accueilli le nouvel évêque de Rome. Le pape François est entré dans la basilique de Saint-Jean de Latran, comme un prêtre dans sa paroisse, saluant une par une les personnes présentes. François s'est ensuite assis sur le trône en marbre, placé dans l'abside de la basilique, un geste qui marque la possession de sa chaire d'évêque de Rome. Des cardinaux, des évêques, des religieux et des laïcs l'ont ensuite salué et lui ont prêté obéissance. Un moment solennel à l'image de la célébration. Dans son homélie, le pape François est revenu sur le sens de la miséricorde au cœur de ce deuxième dimanche de Pâques, appelé aussi le dimanche de la divine miséricorde. Le pape a exhorté les fidèles à ne jamais perdre confiance dans la miséricorde patiente de Dieu. Dieu n'est pas impatient comme nous, nous qui voulons souvent tout et tout de suite, même avec les personnes, a poursuivi le pape. Dieu est patient avec nous car il nous aime, il nous attend toujours, il ne se fatigue pas. Même pécheurs, nous sommes ce qui lui tient le plus à cœur. Chaque chrétien doit se laisser envelopper par les miséricordes de Dieu pour que nous retrouvions confiance, espérance, toujours. Après la messe, le pape a salué les milliers de pèlerins depuis la loggia de la basilique Saint-Jean de Latran. Très souriant, il s'est adressé à tous ceux qui avaient suivi la célébration à l'extérieur. Comme il en a l'habitude, le pape a demandé à la foule de prier pour lui. Allons de l'avant, ensemble, peuple et évêque, dans la joie de la résurrection du Christ, a-t-il conclu.
Un sujet réalisé par Jean-Baptiste Cocagne. Le pape n'a pas changé ses habitudes depuis qu'il est devenu effectivement l'évêque de Rome. En effet, lundi matin, il a célébré la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe en compagnie, cette fois, des employés du CTV, la télé du Vatican. Il a reçu ensuite en audience dans la matinée Nikolaus Schneider. Nikolaus Schneider, c'est le président du conseil de l'église évangélique allemande. Une rencontre écuménique au cours de laquelle Nikolaus Schneider a salué le choix du nom de François, une référence à un saint qui parle à tous les chrétiens de manière efficace, a-t-il précisé. Les deux hommes ont évidemment parlé d'écuménisme et de la valeur des martyrs dont le sang versé unit profondément les diverses confessions chrétiennes dans le témoignage rendu au Christ. On reste au Vatican avec cette dernière nouvelle concernant le pape qui a nommé Mgr Brian Udegwe, nonce apostolique au Bénin. L'église de Chine en deuil après le décès le 22 mars dernier de Mgr Thomas Kian Yurong. Il avait 99 ans. Né dans une vieille famille catholique, il fut ordonné prêtre en 1945 et évêque en 1959. Pendant la Révolution culturelle, il fut condamné à la rééducation par le travail et ainsi passé 20 ans dans une usine chimique. Mgr Kian était considéré comme un homme actif dans la formation des prêtres et des religieux, ainsi que combatif, et ce pour tenter de récupérer les biens de l'Église de Chine. Le calme est revenu ce lundi matin au Caire autour de la cathédrale copte de la ville, la cathédrale Saint-Marc. À dimanche, une nouvelle flambée de violence a visé les chrétiens. Des fidèles ont été attaqués par des habitants alors qu'ils sortaient des funérailles de 4 coptes tués la veille. Les violences ont continué toute la nuit à coups de jets de pierre et de tirs de chevrotine. Bilan, 2 morts supplémentaires et 89 blessés. Ce nouvel épisode de tension est-il le miroir d'une société égyptienne à la dérive? Eh bien, ce n'est pas l'avis de Nagui Cheata. Il est copte, il vit au Caire où il enseigne le français.
On s'attendait un peu que ça allait dégénérer parce qu'il y avait une telle tension à l'intérieur de la cathédrale pendant les funérailles. La société égyptienne, en général, elle a un ras-le-bol total contre le régime actuel et notamment contre les frères musulmans. Les familles et les gens qui sont allés pour assister aux funérailles pendant la prière ont crié leur colère. C'était aussi du jamais vu à l'intérieur de l'église. Hein. Et donc, imaginez un peu la situation. C'est le symbole de la chrétienté en Égypte. Et même pour les musulmans, c'est un symbole très important pour les chrétiens d'Égypte. Donc, attaquer ce lieu-là, c'est le pire cauchemar que les coptes peuvent imaginer, surtout après la révolution et surtout après les craintes fondées hein, des coptes de l'arrivée au pouvoir des frères musulmans.
Je voulais savoir en quoi toutes ces tensions, ces derniers épisodes de violence sont un peu le miroir d'une société égyptienne qui part un peu à la dérive.
La société égyptienne ne part pas à la dérive. Il faut faire la séparation entre la société égyptienne et la situation politique. Les deux sont deux réalités totalement différentes. Hein. La société égyptienne, elle est toujours unie. Ça pourrait paraître un peu bizarre pour les médias, parce que je sais que les médias transmettent une image qui n'est pas toujours la vraie. La société égyptienne est très très unie. En tant qu'entre chrétiens et musulmans, il y a une unité et un amour, et c'est la base vraiment de la société égyptienne. Mais la société égyptienne, elle est divisée entre majorité contre le système politique et une minorité de bandits, parce qu'on les appelle maintenant la bande des frères musulmans, qui a volé la révolution égyptienne et qui, malheureusement, maintenant, mène un chaos politique au niveau du pays et de la région et qui veut entraîner le pays dans un désastre politique.
Quand je parlais d'une société à la dérive, je parlais évidemment d'abord de la situation économique et sociale qui est très difficile. On sent qu'il y a un véritable ras-le-bol, une frustration qui grandit chez tous les Égyptiens. Et est-ce que ces épisodes de violence ont des motivations religieuses ou elles témoignent justement de ces frustrations?
Non, elles n'ont aucun fondement religieux. C'est vraiment une société qui se révolte contre un régime tyran et qui est totalement inefficace. Depuis l'arrivée des frères musulmans, toutes les promesses que Morsi a fait, rien ne s'est passé. Au contraire, on voit une volonté de détruire le pays, de semer vraiment la zizanie dans la population pour l'intérêt des frères musulmans.
Est-ce que, Nagui Cheata, les copes ont peur de ces flambées de violence, de ces attaques contre certaines églises, contre des magasins qui sont parfois pillés, parfois incendiés?
Ils ont peur, évidemment, quand vous en minorité et que vous voyez que vous n'avez aucun moyen de vous protéger et que surtout la police qui est censée vous protéger vient vous attaquer à vos portes, bien sûr vous êtes effrayé. Hein. On n'est pas effrayé par les musulmans parce que les musulmans, il y en a beaucoup, 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 les modérés, nous protègent, ils sont à côté de nous. Mais on est effrayé parce qu'on voit que la police qui est censée nous protéger, elle nous protège pas, au contraire, elle nous attaque. Donc c'est là la raison principale de la frayeur des coptes.
Il n'y a pas plus de tensions interreligieuses qui auraient pu être attisées par certains extrémistes depuis la révolution?
Ah ben, elle a été accentuée. Vous savez, on entend maintenant très souvent dans des mosquées, pendant la prière du vendredi, des gens, des imams qui le disent ouvertement, allez attaquer les chrétiens. Les chrétiens ne sont pas, les coptes ne sont pas désirés dans ce pays-là. Mais heureusement que la société égyptienne n'écoute pas ça. Ça veut dire que les gens eux-mêmes qui assistent à ces prières, parfois se soulèvent à l'intérieur de la mosquée pour contredire l'imam. Donc voilà, ça c'est la base de la société. Ça veut dire que la société ne veut pas sa séparation. Mais pourtant, il y a une volonté, comme je vous dis, politique de faire une séparation entre coptes et musulmans et pour diviser le pays.
Des propos recueillis par Olivier Bonnel. « Ce 8 avril, c'est la journée internationale des Roms. Son objectif est de rappeler la grande précarité dans laquelle vit cette population et d'interpeller pour mettre fin aux discriminations. En France, cette journée se tient sur fond d'expulsions en hausse et d'un échec partiel de la politique de relogement. Devant l'augmentation des évacuations de camps, le gouvernement français et les associations prônent désormais la stabilisation provisoire des bidonvilles et l'installation de camps humanitaires. La semaine dernière, la conférence des responsables de culte en France s'était dit préoccupée par la crise qui a dégradé encore davantage la situation des personnes les plus démunies et sans domicile fixe. La situation faite aux Roms en France alarme particulièrement les responsables des différents cultes du pays. Depuis quelques semaines, des expulsions massives sont mises en œuvre, y compris pendant la période de trêve hivernale. Comme responsables de culte en France, ont-ils alors déclaré, nous voulons rappeler la dignité, le respect qui est dû à chaque personne, quelle que soit son origine et sa situation, la nécessité pour les pouvoirs publics, dont nous savons la difficulté de la tâche, d'un travail en lien avec les associations qui sont force de proposition pour la scolarisation des enfants, l'accès au logement, la mise à l'abri des plus fragiles et la recherche d'emploi, la nécessaire coopération également avec les pays d'origine. Le père Arthur Hervé, religieux assomptionniste, prêtre de l'archidiocèse de Lille, revient sur la situation des Roms en France.
J'étais il y a une demi-heure sur un campement de Roms. Ils ne comprennent pas, ils disent ils s'en foutent les Gaulois. D'un côté, ils nous disent qu'ils n'expulseront pas, puis maintenant ils nous expulsent. Enfin, on se demande où est la logique. Ces Roms ne demandent pas un palace, ils demandent simplement d'être considérés, d'avoir des poubelles. Ils demandent de l'eau pour se laver, pour boire. Ils demandent simplement des endroits pour pouvoir faire leurs besoins. Quand j'avais un tout petit peu de sous, mais je n'en ai plus, je louais des WC publics pour qu'ils puissent aller faire leurs besoins en toute dignité. Et ben, là, il faudrait qu'il y ait quelque chose comme cela. Et c'est, bon, que les enfants soient scolarisés, il y en a quelques-uns qui sont scolarisés, mais pas tous, c'est peut-être un tiers. Mais les autres, où sont-ils? Eh bien, ils attendent le bon vouloir de notre administration. Lorsque je leur ai promis tout à l'heure d'aller acheter encore des grands balais qu'on pourra utiliser pour nettoyer encore le camp, je dis continuez, c'est important. Ils vont venir, je vais acheter des poubelles, je vais acheter des sacs poubelles pour que vous puissiez montrer que vous êtes des hommes et que vous n'êtes pas des sous-hommes.
Alors, les différentes associations parlent et même dénoncent un manque de volonté politique de la part des autorités. C'est ce que vous partagez aussi comme sentiment ?
Oh ben oui, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un me disait, vous comprenez, les Roms, ils ne votent pas. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir des voix pour les prochaines élections. Donc, aujourd'hui, ben, il y a des gens qui sont mécontents. Donc, comme aujourd'hui, les Roms sont stigmatisés comme étant les responsables de la situation déplorable de notre économie, eh ben voilà, les Roms, ce sont des boucs émissaires. Pour moi, c'est évident. Aujourd'hui, les Roms disent, ben, nous ne demandons pas grand-chose, nous demandons simplement le droit de vivre ou de survivre, mais de... Pour l'instant, ils ne survivent même pas, ils n'ont rien.
Est-ce que vous pensez que c'est toute la politique du relogement qu'il faut retravailler et reconcevoir ?
La politique du relogement est indispensable aujourd'hui à repenser en France, mais ils ne demandent pas être relogés. Ils demandent simplement ce qu'on leur donne, de quoi pouvoir s'abriter. Ils ne demandent pas grand-chose, ils ne demandent pas une politique de relogement, ils demandent simplement une politique de la considération, être considérés comme des humains.
Alors justement, quel doit être le rôle concret de l'Église dans tout ça ?
Moi je veux aujourd'hui pouvoir dire, regardez je suis vieux, regardez je marche, je n'ai qu'une jambe, regardez je ne suis pas bien habillé, je n'ai pas de chaussures, mais... Ce que je voudrais simplement, c'est de pouvoir dire qu'au nom de l'évangile de Jésus, je dis que les pauvres doivent être les porteurs de l'évangile. Si le pape François pouvait nous envoyer un petit mot, ce serait bien. Parce qu'on m'a dit, mais tu te prends pour qui ? Je dis, je me prends simplement pour un pauvre prêtre qui aujourd'hui occupe un peu ses jours et ses nuits à trouver un peu de pain, un peu d'eau, un peu de... Je demande si le pape pouvait... m'envoyer un petit mot pour... À ce moment-là, je pourrais le brandir en disant, vous voyez, ce que l'Église en a entendu notre cri.
Des propos recueillis par Manuela à Fiji. C'était un des thèmes de prédilection de Benoît XVI, les rapports entre foi et science. À ce sujet, quel rôle l'université peut-elle jouer dans leur définition ? Eh bien, c'est la question sur laquelle les évêques et les responsables des conférences épiscopales d'Europe réunies à Paris du 4 au 7 avril dernier se sont penchés. La rencontre sur le thème « La science comme chemin vers Dieu » était en effet organisée par le Conseil des conférences épiscopales d'Europe, la CCEE, et soutenue par le Service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations de la Conférence épiscopale française. Pas d'antagonisme, la science est une voie que l'homme peut parcourir pour rencontrer Dieu, et la foi ne dépend pas d'une équation, d'un algorithme ou de formules scientifiques, ont-ils souligné. Les participants ont également noté que le rapport entre foi et science continue encore aujourd'hui à être perçu comme quelque chose d'inachevé, comme une relation non réconciliée. Il y a encore en la matière donc beaucoup de travail à effectuer. On reste en Europe où l'Église orthodoxe serbe est radicalement opposée à tout abandon du Kosovo par la Serbie. Le patriarche Irinée, le chef de l'Église orthodoxe serbe, a officiellement envoyé une lettre au président serbe pour lui rappeler sa promesse à propos de cette ancienne province serbe indépendante depuis quelques années. Cette prise de position n'intervient pas au hasard. C'est mardi en effet que le délai imparti par Bruxelles à Belgrade pour savoir si la Serbie est prête à contribuer à la réconciliation entre la majorité albanophone et la minorité serbe du Kosovo expire. La réponse de Belgrade conditionnera l'ouverture de négociations pour une éventuelle adhésion de la Serbie à l'Union européenne. Au Nigeria, la présidence étudie la possibilité d'accorder une amnistie pour les membres de la secte islamiste Boko Haram, responsable de nombreuses exactions, principalement dans le nord du pays. Une idée qui plaît à Mgr Matthew Hassan Kuba. Il est évêque catholique de Sokoto. Pour lui, c'est un pas dans la bonne direction pour mettre fin à la violence qui déchire le Nigeria. Aux États-Unis, les relations entre l'Église catholique et la présidence de Barack Obama sont à double facette. Elles sont particulièrement tendues à cause notamment de la réforme du système de santé, mais dans le même temps, elles sont plus cordiales sur la question de l'immigration. Un thème cher aux yeux de l'épiscopat et un thème de campagne important pour le président américain. Alors que le Congrès doit approuver une réforme de la loi sur l'immigration, jugée la plus importante depuis un quart de siècle, l'épiscopat souligne la convergence de vues entre la Maison-Blanche et l'Église. Marie Duhamel.
Nous devons donner aux 11 millions d'immigrés sans papiers vivants aux États-Unis l'occasion d'obtenir la pleine citoyenneté américaine. Monseigneur José Gomez, l'archevêque de Los Angeles, est clair. Si nous ne le faisons pas, nous créerons une sous-classe permanente au sein de notre société, ce qui n'est pas juste et ne correspond pas à la façon de faire des Américains. Autant dire que l'Église américaine soutient sans embâge la volonté de Barack Obama de régulariser environ 11 millions d'immigrés, souvent d'origine hispanique. Si une telle loi est votée, ce sera la preuve, selon l'archevêque, que les États-Unis respectent la personne humaine, la liberté, l'égalité et la poursuite du bonheur. Et pour l'Église, l'enjeu est de taille, puisque la très grande majorité de ces immigrés sont catholiques. Mgr Gomez, en qualité de responsable des questions d'immigration au sein de la Conférence épiscopale américaine, a rencontré le président Obama en compagnie d'autres chefs religieux pour parler de cette réforme. Un geste apprécié et qui prouve au moins que le dialogue et l'entente sont possibles entre l'épiscopat et l'exécutif.
Marie Duhamel. C'est ainsi que s'achève ce magazine. Vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site internet www.radiovaticana.va ainsi que bon nombre de photos sur notre page Facebook Radio Vatican en français. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure.